Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Avant de vous parler de notre sujet du jour, une bonne nouvelle, les épisodes du service politique sont à nouveau disponibles sur Apple Podcasts et c'est une très bonne nouvelle parce que la plateforme, pour une raison totalement indépendante de notre volonté, ne chargeait plus les épisodes du service politique depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Ils étaient accessibles sur Spotify, sur Deezer, sur le site ou l'appli BFM TV, mais pas sur Apple Podcast. Donc c'est à nouveau le cas. Vous retrouverez chaque jour sur Apple Podcast un épisode frais du jour, mais aussi ceux que vous avez manqués, si vous êtes des habitués d'Apple. Et je vous recommande notamment un épisode que nous avons enregistré il y a un peu plus d'une semaine avec Juliette Pellerin à Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais. Juliette Pellerin, c'est la journaliste de BFM TV qui a passé plusieurs mois sur le terrain pour partir à la rencontre des Français et trouver les Français qui ont finalement participé à l'émission La France dans les yeux. C'était un épisode un peu plus long que les autres, une conversation qui s'était un peu étalée et qu'on avait mise en ligne en intégralité, mais qui était intéressante parce qu'au-delà des coulisses de l'émission La France dans les yeux, que nous avons réalisée avec quatre candidats à Userche en Corrèze, à Digne dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, il y a Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, eh bien, Juliette a eu la chance de passer 3 mois sur le terrain, à la rencontre des Français, dans les marchés, les associations, les mairies. Et elle est assez intéressante dans la manière dont elle raconte la France de cette campagne présidentielle, parce qu'elle ne parlait pas que de politique avec ses Français. Au contraire, d'ailleurs, elle parlait de beaucoup d'autres choses que de politique. Et je crois que ce qu'elle raconte de la France de cet hiver 2021-2022 et plein d'enseignements avant le scrutin du 10 avril. Bref, allez écouter cet épisode qu'on avait mis en ligne en début de semaine dernière. Et donc maintenant l'épisode du jour, très intéressant aussi, puisque ça faisait plusieurs semaines que j'y pensais. J'ai demandé à Bernard Sananès de venir parler, nous parler. Bernard Sananès, c'est le président d'ELAB, qui est l'institut de sondage qui travaille pour BFM TV, RMC, SFR et L'Express, et donc qui travaille pour établir des sondages d'intention de vote. Alors au début, on avait commencé au début de la campagne à un sondage tous les 15 jours, un sondage d'intention de vote tous les 15 jours, puis maintenant on est passé à un rythme de 2 sondages par semaine, et ça va s'accélérer au fil des derniers jours de la campagne. Et donc j'ai demandé à Bernard, comment est-ce qu'on fabrique un sondage d'intention de vote? Je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et au passage, puisqu'il a publié un dernier sondage il y a quelques heures, il va nous expliquer pourquoi Marine Le Pen peut gagner cette élection présidentielle. Ce n'est pas la plus forte probabilité, mais c'est clairement possible quand on regarde les derniers chiffres remontés par Bernard Sananès pour ELAB, BFM TV, RMC, SFR et L'Express. Donc cet épisode sur les coulisses des sondages en ce jeudi 31 mars, à 24 jours du choix des Français. Salut Bernard.
Bonsoir Philippe.
Bon, ça fait plusieurs semaines que j'espérais pouvoir enregistrer un épisode avec toi. On va essayer d'expliquer quelque chose de mystérieux. J'ai beaucoup de questions souvent qui reviennent d'auditeurs ou de téléspectateurs. Je dis, mais comment est-ce que vous faites des sondages d'intention de vote et comment vous faites pour mettre un tel, pourquoi un tel monte, pourquoi un tel baisse? Bon, voilà.
Il n'y a rien de mystérieux dans tout ça. On va essayer de l'expliquer.
Il se trouve, il y a quelques heures, tu viens de publier le dernier sondage que tu fais pour BFM TV, donc avec ton institut ELAB, SFR, RMC et L'Express. C'est celui qu'on fait donc à maintenant 10 jours du premier tour.
Tout à fait.
Il y en aura quoi? 2 autres avant le premier tour?
Il y en aura 3 autres.
3 autres avant le premier tour.
On va passer à 2 par semaine. Bon. Le prochain, c'est à samedi matin pour le week-end.
Juste avant d'expliquer comment fonctionne, comment on calcule l'intention de vote, qu'est-ce qu'on apprend dans ce sondage-là? Il est quand même spectaculaire. Au second tour notamment.
Oui, on apprend d'abord au premier tour qu'il y a en fait une forme de polarisation autour de 3 candidats. Emmanuel Macron qui malgré tout progresse encore de 0,5, il est à 28. Ouais. Marine Le Pen qui progresse de 1 point, 21. Et Jean-Luc Mélenchon, 15,5. Donc ces 3 candidats, ce sont les 3 candidats qui depuis la crise ukrainienne progressent. Comme si finalement il y avait dans cette période-là une prime à l'expérience. Ça c'est un premier point intéressant. Le deuxième point, tu l'as rappelé, c'est qu'il y a un paradoxe. Emmanuel Macron, par rapport au sondage qui avait été fait avant l'invasion de l'Ukraine, progresse sur son premier tour, mais il recule très nettement sur son second tour. Comme si finalement, le président avait profité pour élargir son socle électoral, notamment auprès d'électeurs de droite, très sensibles à l'aspect légitimité. Exactement, exactement. Mais en revanche, le candidat Macron, lui, a en quelque sorte réactivé l'opposition. Il y a un phénomène qu'on pourrait qualifier un peu de tout sauf Macron qui s'est réactivé chez un certain nombre d'électeurs de la gauche, par exemple, également chez les électeurs d'Éric Zemmour. On voit que le vote Marine Le Pen au second tour serait en forte progression cette semaine.
Tout à l'heure à l'antenne, à propos de ce sondage, tu as utilisé une expression que je trouvais assez efficace à propos de Marine Le Pen au second tour. Tu parlais de la colère tranquille, qui est une référence notamment au slogan de Mitterrand 80-81, la force tranquille. Oui, qu'est-ce que ça veut dire la colère tranquille?
La colère tranquille, c'est d'abord un constat. Qu'on avait peut-être oublié. La colère n'a pas disparu dans le pays. Oui. La colère qui s'exprimait notamment au moment des gilets jaunes, qui s'exprime quand on pose par exemple une question aux Français, est-ce que vous trouvez que la société française est juste ou injuste? Oui. Et on a près de 7 Français sur 10 qui disent la société est injuste. Quand on voit les fins de mois...
C'est plus que les autres fois, ça?
C'est plus que les autres pays, surtout. D'accord. Et c'est un peu moins qu'au moment des gilets jaunes, mais ça reste très, très marquant. Quand on regarde les fins de mois, qui sont l'élément structurant pour comprendre aujourd'hui le vote des Français, on a près de 4 Français sur 10 qui disent qu'ils ne bouclent pas leur fin de mois sereine. Et bien tout ça crée chez une partie de l'électorat une colère. Qui a pu capter cette colère? Et bien dans la première année du quinquennat, c'était Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à peu près la réforme du code du travail. Ensuite, depuis le moment des gilets jaunes, c'est Marine Le Pen. Mais finalement, avec la poussée d'Éric Zemmour et peut-être diront certains de ses excès, Marine Le Pen a incarné une forme, c'est pour ça que j'appelle ça, de colère tranquille, c'est-à-dire une colère qui s'exprime très fermement, colère sur le pouvoir d'achat, colère fiscale, colère sur l'insécurité, colère sur le déclassement, mais qui s'exprime avec un ton, une posture qui a changé, nous dit-on dans les enquêtes, par rapport à ce que représentait, ce qu'incarnait Marine Le Pen en 2017.
Est-ce que ça veut dire que, pour caricaturer ou pour simplifier, il y a une forme de vote de classe où Marine Le Pen rassemblerait un électorat populaire et Emmanuel Macron rassemblerait un électorat plus de classe moyenne supérieure, plus bourgeois.
Si tu me permets, je le précise un peu plus. Et je prends la variable du pouvoir d'achat.
Ouais.
Quand on demande aux gens s'ils bouclent leur fin de mois ou pas, ceux qui bouclent leur fin de mois sereinement, ils votent Emmanuel Macron à plus de 35%, Marine Le Pen à 15%. Ceux qui bouclent leur fin de mois difficilement, c'est l'inverse.
Ouais.
Ils votent Marine Le Pen à un tiers et ils votent Emmanuel Macron à 17%. Voilà, cette variable de la fin de mois aujourd'hui, elle est sans doute la clé qui peut nous expliquer ce qui se passera au moment du premier et du second tour d'élection présidentielle.
Et là, je repense à une scène qu'on évoquait dans un épisode il y a 2 jours à Dijon avec cet homme. Emmanuel Macron sur le terrain est interpellé par le pouvoir d'achat, notamment par un homme qui racontait qu'avec son épouse, il gagnait à 2 000-4 000 euros par mois et que malgré tout, à partir de 5 du mois, il ne restait plus grand-chose parce qu'ils avaient un certain nombre de dépenses contraintes. Et donc, sans être pauvre, 4 000 euros par mois pour un couple, c'est faire partie de la classe moyenne et pas du tout être dans la précarité. Et malgré tout, ils avaient du mal à boucler leur fin de mois et ils avaient l'impression d'être salariés pauvres.
Oui, on a 3 Français sur 10 qui nous disent qu'ils sont à découvert régulièrement, tous les mois ou quasiment dans l'année. Et quand ils sont à découvert, ils le sont en moyenne le 18 du mois. Le 18 du mois, c'est à peine un peu plus de la moitié. Il reste 12 jours pour finir le mois. Donc c'est évidemment une pression du quotidien. Il faut préciser, pour être tout à fait objectif, que sur le sujet du pouvoir d'achat, Emmanuel Macron a malgré tout marqué des points. Il a marqué des points avec les mesures post-gilets jaunes, il a marqué des points avec les mesures du quoi qu'il en coûte. Ce qui fait que quand on pose la question qui serait le meilleur défenseur du pouvoir d'achat, Emmanuel Macron et Marine Le Pen font à peu près jeu égal. Il y a une partie des Français qui nous disent dans les enquêtes, notamment, vous savez, tu sais Philippe, les enquêtes qualitatives, eh bien finalement, il n'a pas tout réussi sur ce sujet-là, mais il a quand même fait des choses. Quel sera le degré d'appréciation, notamment des classes moyennes dont tu parles? Est-ce que la balance ira plutôt du côté, non, il n'y en a pas assez, ou oui, malgré tout, ça a été le premier point? Eh bien, on verra dimanche prochain.
On avait fait un épisode la semaine dernière après l'émission avec Marine Le Pen à un moment, qu'on avait intitulé « Est-ce que Marine Le Pen peut gagner ?» Si je te pose la question, est-ce que Marine Le Pen peut gagner cette élection présidentielle?
C'est une probabilité aujourd'hui qu'on ne peut pas, sur la base des chiffres, écarter. Marine Le Pen, en tout cas, n'a jamais été autant en condition de pouvoir l'emporter. En tout cas, ceux qui disaient que l'élection était jouée, qu'il n'y avait pas de match, se sont trompés. L'élection n'est pas jouée, d'abord parce que les scores sont très serrés, deuxièmement parce qu'il reste 10 jours de campagne et que ça peut évidemment faire bouger les sondages, et troisièmement parce qu'il reste à peu près 9 millions d'électeurs qui disent qu'ils ne sont pas sûrs de leur vote. C'est énorme à 10 jours du scrutin.
En 2017, quand Marine Le Pen a finalement été deuxième au premier tour, mais pendant très longtemps dans les sondages, était première jusqu'à quelques jours avant le premier tour, à aucun moment, elle n'avait eu cette probabilité de gagner au second tour. Jamais.
Non, parce qu'elle n'avait notamment pas de réserve de voix. Là, elle a d'abord les réserves de voix d'Éric Zemmour, un bon report de voix sur le second tour de cet électorat, et puis un phénomène qu'il faudra prendre avec prudence et retrait par rapport, évidemment, recul par rapport à ce que nous disent les sondages, c'est qu'aujourd'hui, 31% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon disent qu'ils pourraient voter pour Marine Le Pen. Est-ce qu'ils le feront ? Est-ce que dans l'entre-deux tours, il voterait Marine Le Pen ? Est-ce qu'il s'abstiendrait ? Est-ce qu'il restera quelque chose du Front Républicain ? Ça, on ne peut pas le savoir. Dire aujourd'hui Marine Le Pen peut gagner et dire le dimanche soir du premier tour Marine Le Pen est en mesure de gagner, ça ne provoque pas les mêmes choses.
Alors, sans rentrer trop dans le détail de méthodologie, comment est-ce que ça se fabrique un sondage d'intention de vote ? Comment est-ce que tu travailles ?
Alors, d'abord, il faut le dire, les sondages sont faits online. On interroge des gens qui se sont inscrits sur des panels.
D'accord.
En 2002, par exemple, quand il y a eu le bug des sondages, il ne faut pas avoir peur de le dire, les interrogations étaient faites par téléphone. Ouais. On s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de gens qui, parce qu'il y avait un enquêteur qui leur posait la question, ne disaient visiblement
n'osez pas dire « je vote Le Pen ».
Là, quand vous répondez derrière votre écran, vous êtes tout seul. Il n'y a donc pas de filtre. Premier point, interrogation online. Deuxièmement, la clé d'un sondage réussi, c'est d'avoir un échantillon représentatif de la population française en âge de voter.
D'accord.
C'est pour ça d'ailleurs que nous, on se bat quand un média, pas BFM, mais d'autres disent « sondage réalisé ». Un sondage, c'est un échantillon représentatif. Oui. Si vous interrogez des gens comme ça, ce n'est pas représentatif. D'accord. Sondage représentatif, ça veut dire qu'il faut que dans notre échantillon, nous ayons un échantillon qui ressemble à la France. Par exemple, il y a 52% de femmes. Si on n'a pas 52% de femmes dans notre échantillon, il n'est pas bon. Il y a par exemple 10%, 11% de 18-24 ans. Il y a plus d'un quart de 65 ans et plus. Et donc, il faut qu'on ait ces proportions. C'est comme ça que l'on constitue nos panels. Premier point.
Donc, par exemple, pour un sondage d'intention de vote comme celui-ci pour BFM TV, au bout du compte, vous aurez interrogé combien de personnes ?
Il faut 1000, la base que nous retenons sur un sondage classique, c'est 1000 personnes.
Ouais.
Là, pour les sondages d'intention de vote, comme il y a une part de gens qui ne disent pas qu'ils vont aller voter, ils ne sont pas sûrs de leur choix, on prend une base plus large, 1500, pour avoir à peu près 1000 personnes sûres d'aller voter.
Donc, est-ce que 3 mois avant ou 3 jours avant, tu prends la certitude d'aller voter à la même incidence sur ton panel ? Plus on s'approche, plus tu prends les gens certains d'aller voter, c'est ça ?
Oui, nous prenons effectivement les gens qui disent qu'il est possible qu'ils aillent voter ou qu'il est certain qu'ils aillent voter. Les gens qui nous disent « je n'irai pas voter », on ne les prend pas. Je prends souvent cette comparaison qui, j'espère, sera parlante pour ceux qui nous écoutent.
Ouais.
Philippe, tu dois lancer un de tes reporters, faire un reportage sur un film pour savoir si le film a été jugé bon ou pas. Tu envoies ton reporter à la sortie du cinéma.
Ouais.
Il doit interroger les gens qui sortent du film ou les gens qui passent sur le trottoir à ce moment-là.
Ah oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Eh bien, les gens qui sortent du cinéma, ceux qui disent qu'ils peuvent aller voir le film, c'est ceux qui nous intéressent. Alors, effectivement, il y a 3 mois, les gens qui disaient peut-être, on les prenait en compte. Mmh. Donc, comment on fait, de manière très concrète, on pose une question de 0 à 10, est-ce que vous êtes sûr d'aller voter ? Il y a encore un mois et demi, 2 mois, on prenait la note 8-10. Depuis 3 semaines à peu près, de mémoire, on est passé à la note 9-10.
D'accord.
Et on verra la semaine prochaine, c'est pas encore décidé, ça dépend des résultats de l'intention de vote, savoir si on passe à la note 10 ou pas.
Quand on parle avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, notamment en ce moment, ils disent que la clé de l'élection pour eux, pour leurs électorats, c'est la mobilisation. C'est-à-dire que de faire en sorte, selon que l'abstention est forte ou plus faible, ça aura des conséquences. Est-ce que l'incertitude de la participation ou de l'abstention fausse d'une certaine manière les sondages d'intention de vote ou disons crée une incertitude ? Est-ce que ça joue beaucoup dans les
scrutins ? Bien sûr, ça crée une incertitude, mais il faut le dire, cette incertitude est moindre dans les scrutins où l'on vote beaucoup, et malgré tout c'est le cas pour l'élection présidentielle, que dans les élections par exemple régionales, où c'est vrai, ce phénomène n'a pas été bien appréhendé. Après, quand Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon disent que c'est très important pour eux, c'est vrai, mais c'est important pour tous les électorats. Si les jeunes ne vont pas beaucoup voter, ça peut aussi être défavorable aux candidats écologistes.
Bien sûr.
Si les cadres aisés, parce qu'ils sont en vacances, ne vont pas voter, ça peut être défavorable à Emmanuel Macron. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une structure, c'est que même pour l'élection présidentielle, l'écart est moindre que dans les élections intermédiaires, les milieux populaires et les électorats les plus jeunes sont ceux qui vont le moins voter.
On dit souvent, et on le dit à l'antenne, et c'est important qu'un sondage n'est jamais une prédiction, mais une photographie à un instant T. Donc on a raison de le dire, je crois.
Ah oui.
Et en même temps, quand on regarde les derniers scrutins, 2017, 2012, 2007, les sondages, pas seulement les tiens, mais des instituts sérieux, dans les 15 derniers jours, ont bien mesuré les tendances.
Tout à fait.
Il n'y a pas eu d'erreur majeure.
Effectivement.
Et c'était difficile en 2017.
C'était très difficile. Et en 2017, notamment, le dernier sondage Elabe pour BFM TV a donné non seulement l'ordre, mais les écarts au plus près de tous les sondages qui ont été publiés dans les derniers moments. Ce qui, en fait, fait débat, et je comprends parfois cette confusion, et parfois, évidemment, elle m'agace, quand on dit les sondages se sont trompés parce qu'il y a trois mois, ils ne donnaient pas le résultat.
Voilà, c'est ça.
Oui, mais heureusement. Parce que sinon, les médias ne feraient pas des débats, les candidats ne feraient pas campagne, et il ne se passerait rien. Heureusement, en tant que citoyen, heureusement qu'il se passe des choses
dans une campagne.
Et d'ailleurs, regardez même sur cette élection, une fois de plus, les dynamiques que l'on observe sont très importantes.
Oui.
La dynamique pour Jean-Luc Mélenchon, la dynamique pour Marine Le Pen, elle correspond à un moment où les milieux populaires, par exemple, sont rentrés dans la campagne. Ce sont des phénomènes, je ne dis pas qu'on mesure parfaitement, il y a toujours une surprise. Allez, je vais faire un pari avec vous, Philippe, je suis avec toi, Philippe, je suis sûr qu'il y aura une surprise. Il y en a toujours.
D'ordre, par exemple,
il peut y avoir
sur les cinq premiers.
D'ordre, il peut y avoir une surprise de niveau, voilà. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, les sondages pour l'élection présidentielle, dans les dernières éditions, ne se sont pas trompés.
Classiquement, à chaque élection, c'est le cas encore dans celle-ci, il y a tel ou tel candidat qui dit « mais il y a un vote caché ». Il y a un vote qui… Et je sens dans le pays, je sens quelque chose qui fait qu'il y aura une surprise sur du premier tour. Ça existe vraiment, le vote caché ? Enfin, comme un élément qui peut vraiment renverser, vraiment surprendre ?
Écoutez, il faut surveiller. C'est quelque chose que l'on essaie de monitorer. On pose des questions pour demander aux gens s'ils sont sûrs, pour quelles raisons ils voteraient, est-ce que s'ils votaient, ils le diraient vraiment, etc. En 2017, l'état-major, par exemple,
Fillon
de droite,
disait qu'il y aurait un vote caché.
Ça ne s'est pas manifesté. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci ? On verra. Personnellement, je pense notamment sur l'électorat d'Éric Zemmour, dont on parle beaucoup.
Lui qui en parle,
C'est un électorat qui, sociologiquement, n'est pas du genre à se cacher. C'est un électorat qui a envie de dire tout haut et tout fort ce qu'il pense. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit une sociologie de gens qui veulent se cacher. Mais soyons vigilants, il peut se passer des mouvements, y compris d'ailleurs, il peut y avoir des électeurs inscrits sur des panels qui veulent faire mentir les sondages. Ça peut arriver.
C'est marginal. Merci Bernard. On se retrouvera pour un épisode le week-end du premier tour pour expliquer comment fonctionnent les estimations à 20h. Merci.
Merci Philippe.
Merci d'avoir suivi cet épisode. À demain.